Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans l'épître de Paul aux Galates. Nous poursuivons notre lecture dans cette épître aux Celtes gaulois. Cette épître, donc, a des descendants de Gaules, apparemment, mais ce n'est pas là l'intérêt. En tout cas, nous voulons poursuivre la lecture et nous faisons lecture ce matin, toujours dans le chapitre 1er. Nous terminons ce chapitre, les versets 11 à 24. Donc, nous faisons lecture dans Galates, chapitre 1er, les versets 11 à 24. Pour la lecture de la parole de notre Dieu, je vous invite à vous lever. Galates 1, 11 à 24. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, nous nous plaçons à l'écoute de ta parole. Et Seigneur, au moment où tu parles, au moment où tu te révèles à nous, nous voulons te dire « Parle, Seigneur. » Ton serviteur, tes serviteurs t'écoutent. Que Seigneur, ce soit l'occasion pour nous de grandir dans notre connaissance de ton nom, mais surtout de grandir dans notre culte, dans notre adoration, dans notre service, dans notre désir de te servir, pas juste de faits et gestes, pas juste du bout des lèvres, mais de te servir avec tout notre être. Alors Seigneur, que l'Esprit Saint qui a révélé cette parole, qui a donné cette parole à l'apôtre Paul, que ce même Esprit Saint aujourd'hui nous donne de la recevoir et puissions-nous, Seigneur, la voir entrer en nous, germer en nous, porter du fruit et te rendre gloire. Seigneur, conduis-nous maintenant dans la méditation de ta parole, nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre place. Nous avons évoqué la semaine dernière le questionnement de Paul au sujet de l'Évangile. Nous avons évoqué que Paul dit qu'il y a un seul Évangile. Et nous avions vu, je le cite, « Je m'étonne, dit Paul, que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'Évangile du Christ. » On a donc évoqué que Paul questionne les chrétiennes et les chrétiens de la Galatie et il les questionne pour dire comment pouvez-vous considérer un autre message de l'Évangile, un autre Évangile. Et Paul, nous l'avions vu, eh bien, déclare avec force, ça peut surprendre, mais déclare avec force. Et on a évoqué, j'espère que c'était suffisant pour avoir un début de recherche personnelle sur la question et on va y revenir tout au long de cette épître, Mais il déclare avec force que ce n'est pas juste une option, ce n'est pas juste une option théologique, ce n'est pas juste une autre lecture. Ce qu'il va dire, c'est que cet évangile qui vient vers eux est faux, qu'il est même une perversion, qu'il est un détournement, qu'il amène les personnes à faire un demi-tour, non pas comme la conversion qui est un demi-tour qui nous mène à Christ, mais une conversion qui nous éloigne de Christ. Et donc, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et dans le texte que nous avons lu ce matin, eh bien Paul maintenant pose un autre élément du fondement de l'évangile, à savoir celui de son origine. Et son origine est Dieu. Au commencement, Dieu, la Bible commence ainsi. Au commencement, Dieu. Je vous déclare, verset 11, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. On pourrait dire un petit peu comme le tout premier texte qu'on a évoqué, de dire « Grâce à la paix soit avec vous », ce serait une formule un peu rapide. On pourrait dire ici, il y a un peu de banalité de dire ces choses-là, mais pas du tout dans l'esprit de Paul. Ce n'est tout sauf banal. En effet, si la Bible commence en disant « Au commencement, Dieu », l'évangile de Jean aussi commence en disant « Au commencement était la parole ». La parole, l'expression articulée et organisée de la pensée de Dieu qui est révélée aux hommes et qui est révélée en la personne de Jésus-Christ. La parole était Dieu et cette parole nous est révélée. En tout cas, elle est révélée à Paul. Et étant révélée à Paul, elle nous est révélée. Et donc l'évangile, selon Paul, tel qu'il l'annonce, a été reçu par une révélation de Jésus-Christ. Alors, on va s'arrêter un instant sur ce point. Qu'est-ce que Paul peut bien vouloir dire quand il parle d'avoir reçu une révélation et une révélation venant de Jésus-Christ? Eh bien, Paul, ici, se trouve... J'avais initialement mis dans mes notes « se place », mais non, ce n'est pas lui qui s'est placé. Il se trouve être dans une lignée de ceux qui ont reçu une révélation venant de Dieu, c'est-à-dire dans la lignée de ceux à qui Dieu s'est révélé. Et nous voyons que c'est une grande spécificité du Dieu de la Bible. Dès l'Ancien Testament, nous voyons que c'est Dieu qui se révèle aux hommes, c'est Dieu qui vient vers les hommes. Le Dieu de l'Ancien Testament se distingue remarquablement des dieux environnants, des divinités environnantes, par le fait qu'il est, il est, il est, il était, il est, il sera, il est vivant, il est Dieu et il est un Dieu qui se révèle. Et nous pouvons observer, et ça peut être des banalités, mais c'est intéressant de noter, nous pouvons observer que c'est Dieu qui décide de quand et comment il va se révéler aux hommes. Ce n'est pas les hommes qui subitement vont dire « Tiens, ça serait intéressant de te connaître, Seigneur. Peux-tu nous parler? Peux-tu nous dire de quoi il s'agit ?» Non, c'est Dieu qui, dans un temps qui lui est propre, dans une période propre à sa propre providence, c'est Dieu qui se révèle aux hommes. Ce ne sont donc pas les hommes qui décident, ce ne sont pas les hommes qui vont dire « Parle, Seigneur ». Alors évidemment, vous allez me dire « Si, Samuel a dit « Parle, Seigneur », mais dans un contexte, c'est Dieu qui est venu et qui a choisi un moment par lequel il allait parler. Et quand Samuel dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », c'est bel et bien parce que Dieu est déjà intervenu et qu'il a un message à donner ici. Dieu se révèle donc dans son propre temps, dans sa providence, dans sa sagesse. Il se révèle aussi comme le Dieu de l'histoire. Le Dieu qui se révèle dans la Bible est le Dieu qui est un Dieu qui conduit les choses, qui conduit l'histoire, qui entre dans l'histoire. Il se révèle dans l'histoire de son peuple d'Israël, et le temps, un des moments forts de cette révélation, c'est le moment de l'Exode, où on voit Dieu qui marque particulièrement l'histoire, il maîtrise l'histoire, il rentre dans l'histoire, et il se révèle aux hommes dans cette histoire. Et donc Dieu conduit l'histoire des hommes, Dieu se révèle à Moïse pour l'instruire et le conduire, lui et le reste du peuple. Dieu conduit l'histoire de son peuple, mais aussi l'histoire du monde. On voit que Dieu, donc, non seulement fait l'histoire, rentre dans l'histoire, se révèle dans l'histoire d'un peuple, mais également du monde. Et je prends comme exemple comment Dieu conduit l'histoire, fait l'histoire, par exemple avec des rois païens, par exemple Babylone. Comment Dieu a conduit l'histoire pour juger son peuple, qui a dû ainsi être déporté jusqu'à la destruction du temple. Et on voit Dieu encore qui rentre dans l'histoire lorsqu'il prend Cyrus là où il est et il donne à Cyrus de donner faveur au peuple et de venir permettre au peuple de revenir et de reconstruire le peuple. Donc Dieu, dans son temps, conduit l'histoire, rentre dans l'histoire et ainsi se révèle par l'histoire. Dieu se révèle aussi comme un Dieu saint et un Dieu qui fait grâce. Il révèle à Moïse, par exemple, dans le moment où il entre dans l'histoire, eh bien, il est dans cette révélation aussi, il pose les fondements de ce qui doit être bon, il pose les fondements de sa sainteté et de comment être en relation avec un Dieu saint, et ainsi il rentre et il donne les éléments de la pratique cultuelle, de comment le culte doit avoir lieu, le culte dans son sens général, comme dans son sens plus particulier, c'est-à-dire comment la vie du peuple, qui est un culte, tout est culte, tout est service pour Dieu, comment la vie du peuple doit être au service de son Dieu, et comment le culte doit être dans la façon plus spécifique du jour du Seigneur, du sabbat, etc. Eh bien, on voit là que l'enjeu ici, ce n'est pas juste dans la façon dont Dieu se révèle comme un Dieu saint et faisant grâce. On voit que là, Dieu n'est pas juste en train de demander que le peuple ait une pratique. Il ne demande pas qu'il y ait juste une série de rites. Il ne demande pas qu'il y ait là une forme de culte à donner. Mais il demande à ce que derrière les pratiques, il y ait une réalité du cœur. C'est-à-dire derrière pas juste une pratique cultuelle, mais une pratique cultuelle empreinte d'obéissance. Ainsi, ce qu'il demande, ce n'est pas juste de venir faire un sacrifice, mais il demande de venir avec son cœur offert en sacrifice. Nous voyons ainsi que Dieu dit « écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » C'est le Dieu saint qui parle et qui veut une relation et qui se révèle comme étant saint et comme voulant une relation avec le peuple. Mais en même temps, parce qu'il est saint, Dieu se révèle, là encore, comme celui qui fait grâce et qui pardonne les fautes. Ainsi, il dit, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu est saint. Il ne laisse pas passer les choses. Mais Dieu fait grâce et sa grâce est nettement en surabondance par rapport au péché des hommes ici. Donc on voit Dieu qui se révèle dans son temps, Dieu qui se révèle dans l'histoire, Dieu qui se révèle par sa sainteté comme saint et comme étant Dieu faisant grâce, Dieu qui se révèle aussi comme le Créateur et celui qui tient le monde dans sa main et qui maintient le monde tel qu'il est. Le monde existe par la parole de Dieu, par sa volonté toute puissante. Et c'est un peu ce que nous avons évoqué en faisant la lecture du psaume 33 ce matin. Nous voyons ainsi que la parole de l'Éternel est droite. Toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il parle et il y a une œuvre qui se met en place. Il dit et le monde est créé. Il dit et les choses se font. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans les réservoirs, etc. dans ce que nous avions vu dans le psaume 33. Et là, je résume un petit peu ce que Kittel nous dit sur la notion de révélation dans l'Ancien Testament. Et il dit ceci, dans la perspective païenne, dans la perspective, on va dire, d'influence païenne, grecque, l'homme dévoile Dieu. L'homme donne l'impression, de par ses propres recherches, de dire « voilà qui est Dieu et voilà comment sont les choses ». Dans la perspective biblique, dit-il, Dieu se révèle lui-même à l'homme. Et ce n'est pas du tout la même chose. Dieu est celui qui se révèle. D'un côté, nous avons des hommes qui cherchent à faire des preuves, rassembler des éléments. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que ce sont ces hommes qui reçoivent la louange. Mais de l'autre, Dieu se révèle et la louange va à Dieu. Et toujours dans la perspective de la révélation de l'Ancien Testament, qui dit Dieu se révèle, qui dit Dieu parle, dit prophétie. Dieu parle comment ? Par ses prophètes. Et la notion de prophétie est quelque chose d'extrêmement sérieux. On ne prophétise pas n'importe comment. Il y avait déjà dans les temps bibliques toutes sortes de voix qui s'élevaient, toutes sortes de voix qui disaient « Dieu m'a dit, et voici ce que vous devez faire, ou voici ce que vous ne devez pas faire. » Mais Dieu prend très au sérieux dans sa révélation de dire « Quand il parle, il veut que montrer que c'est quelque chose de sérieux. Ainsi dit-il à Moïse, je leur susciterai au peuple, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi Moïse, tu es mon porte-parole, tu es celui auprès de qui je me révèle, celui qui va donner au peuple les consignes à suivre ici, bien, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, il parle de Jésus-Christ, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira dans mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc quand Dieu parle, quand Dieu se révèle, mieux vaut écouter. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. C'est sérieux. On ne plaisante pas avec la révélation. Peut-être diras-tu en ton cœur, mais comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite et tu n'en auras pas peur. C'est un survol très rapide de ce que veut dire révélation dans l'Ancien Testament. Mais la révélation dans le Nouveau Testament est en pleine continuité avec celle de l'Ancien Testament. En effet, Dieu est toujours le Dieu qui se révèle dans l'histoire. Souvenons-nous comment la parole de Dieu, comment l'incarnation s'est faite. Souvenons-nous comment les choses ont été conduites dans l'histoire et que Joseph et Marie, qui n'auraient jamais dû se trouver à Bethléem ce jour-là, s'y sont trouvés parce que l'histoire a été mise en route et que Dieu a conduit toutes choses ici. Dieu se révèle dans sa sainteté et dans sa grâce. Et nous voyons encore Jésus, comment il va parler particulièrement dans le sermon sur la montagne et comment il va montrer à quel point Dieu est saint. Et l'exhortation faite de dire Dieu qui se révèle dans le Nouveau Testament n'enlève en rien tous les éléments forts révélant la sainteté de Dieu dans l'Ancien Testament et dans sa grâce aussi. Et Dieu se révèle comme le Créateur et comme celui qui tient le monde dans ses mains. Souvenons-nous encore Jésus, comment il pouvait maîtriser les choses, souvenons-nous particulièrement lorsqu'il commande au vent et à la mer de se calmer et que tout le monde est en train de dire « Mais qui est cet homme capable de faire une telle chose ?» Eh bien, on voit qu'en Jésus-Christ, Dieu se révèle toujours dans l'histoire. Il est toujours celui qui tient l'histoire dans ses mains. Il est toujours le Dieu saint, toujours le Dieu qui fait grâce, toujours le Dieu qui se révèle comme le Créateur et comme celui qui tient le monde dans ses mains. La révélation d'ailleurs de Dieu dans le Nouveau Testament est une révélation qui est en pleine continuité avec l'Ancien Testament à un tel point que si vous avez des Bibles d'ailleurs, où lorsque l'Ancien Testament est cité, et les éditions parfois mettent les textes par exemple en italique ou autre, eh bien on peut voir à quel point le Nouveau Testament est truffé, mais vraiment truffé, enfin excusez-moi l'expression, mais rempli de citations de l'Ancien Testament, montrant ainsi qu'il y a une continuité dans la révélation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu parle et il parle aux hommes. Et chose importante, et en lien avec Paul, je ne m'éloigne pas trop, je reviens, là, je suis en train de revenir au texte ici, c'est une longue parenthèse, mais pour simplement comprendre ce dont Paul parle ici. Chose importante, le Dieu qui se révèle dans le Nouveau Testament se révèle en continuité avec l'Ancien Testament, mais en non-continuité, en non-conformité aux traditions qui ont été instaurées par les hommes. Les hommes, en effet, ont rajouté un certain nombre d'éléments, ont changé les choses, et le Dieu qui se révèle, entre autres par l'apôtre Paul, n'obtient pas compte de ces traditions ici. Jésus, déjà clairement dans son enseignement, particulièrement dans le sermon sur la montagne, ne va prêter aucune attention et va donner aucun crédit aux traditions des hommes, tant que cette tradition n'est pas fondée sur l'Ancien Testament. Souvenez-vous, le nombre de fois que Jésus va dire « Vous avez entendu ?» Et quand il dit « Vous avez entendu que ?» il va énumérer, citer, donner en exemple ce que les hommes ont posé autour de l'Écriture, ce que les hommes ont ajouté à l'Écriture, ce que les gens ont ôté de l'Écriture, la façon dont ils ont interprété l'Écriture. Et Jésus va dire « Vous avez entendu dire que ?» Mais moi je vous dis, et systématiquement quand Jésus dit « mais moi je vous dis », il fait référence au texte révélé de l'Ancien Testament. Et on voit que ce qui est donné dans le Nouveau Testament ici est en ligne directe avec l'enseignement et la continuité de cet enseignement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et donc ces traditions, et j'y viens là, ces traditions, c'est ce dont Paul parle dans ce texte quand il parle ici de judaïsme. Bon, ce mot peut avoir plusieurs arrière-plan, mais l'arrière-plan ici présent, c'est l'arrière-plan d'un mouvement religieux qui a ajouté, enlevé, interprété et qui a fait une grille de lecture du texte biblique. Et donc ces traditions, appelées par Paul ici judaïsme, sont précisément ce que Paul pointe du doigt, qui détourne de l'Évangile. Ces traditions sont en train de rentrer dans l'Église. Une pression est faite et qui rentre dans l'Église pour lire les choses avec une autre façon que le contenu pur de l'Évangile. Et donc Paul est en train de pointer du doigt ce qui détourne l'Évangile, ce qui est l'autre Évangile, cet Évangile qui est une perversion, un détournement. Et il dit, verset 13, « Vous avez entendu, en effet, vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » C'est pourquoi Paul se distingue de cette histoire-là, se distingue de ce mouvement-là et met en avant ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. C'est le témoignage qu'il est dans la lignée, qu'il est dans cette lignée d'hommes auprès de qui Dieu, et non pas les hommes, a décidé dans sa pleine souveraineté de se révéler. C'est pourquoi Paul insiste, au point même qu'il ne va pas aller voir les autres apôtres de suite. Il insiste pour dire que c'est par révélation et révélation seulement qu'il a reçu de la part du Seigneur ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train d'exposer, à savoir l'Évangile. Dieu, en la personne du Christ ressuscité, se révèle à lui comme il s'est révélé aux autres apôtres. Verset 15, « Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. » Nous voyons là que Paul annonce avec clarté aux chrétiens et chrétiens de Galates, il leur annonce avec clarté qu'il a été enseigné, qu'il a été révélé, il a eu la révélation venant de Dieu lui-même par la personne du Christ ressuscité, et que c'est par lui seulement qu'il a fait, et que je ne sais pas ce qui a motivé Paul, ce n'est pas dit. Je ne sais pas si c'était... Enfin, c'est sûrement lié entre ce qu'il en aura compris, ce qu'il en aura reçu comme révélation, mais ce qui est clair, c'est qu'il fait un choix. Il fait le choix de ne pas aller de suite voir les apôtres. Il fait le choix de se laisser enseigner par Jésus-Christ lui-même. Et ensuite, et seulement dans un deuxième temps, Paul ira voir, particulièrement Pierre et Jacques, de façon à attester que quand même Paul n'est pas un homme à part. Paul ne fait pas son truc dans son coin, Paul ne va pas créer sa secte dans son coin, il va retrouver les autres apôtres après avoir reçu l'enseignement du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Il va voir les autres apôtres, verset 18, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Cephas et je suis resté 15 jours chez lui, mais je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici devant Dieu, je ne mens pas. Ainsi, dans son argument et dans le débat de l'Évangile que Paul mène, il est nécessaire de montrer l'origine de cet Évangile. L'origine de son Évangile, et l'origine, c'est que cet Évangile est de Dieu, vient de Dieu. Paul insiste énormément sur ceci. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas leurs traditions, ce ne sont pas leurs rites, ce ne sont pas leurs formes culturelles, ce n'est pas non plus leur ressenti, ce n'est pas non plus leur science, ce n'est pas leur philosophie, ce n'est rien qui puisse venir des hommes, c'est Dieu. Et en parenthèse, en nota bene, si je pourrais dire ainsi, une certaine tradition, une certaine pratique culturelle est bien sûr bonne à garder, si et seulement si elle repose sur la révélation. Nous voyons encore une fois Jésus qui en donne l'exemple ici. Jésus ne va pas rompre avec certaines traditions parce que ce sont des traditions fondées bibliquement. Vous ne verrez jamais, par exemple, Jésus ne pas respecter un sabbat, ne pas aller à la synagogue. Il n'est jamais dit qu'il est allé se promener ou faire de la pêche à ce moment-là. Il était très clair que Jésus respectait cette tradition, si l'on pourrait dire ainsi, dans le bon sens du terme, parce que c'est là un jour mis à part dès la création, mis à part dans la révélation, et Jésus le fera tout le temps, et éventuellement, par contre, il va aller à l'encontre des traditions de la tradition, et il va aller à l'encontre pour redonner du sens aux choses, particulièrement quand il fera des guérisons. Alors voilà, Paul déclare avoir reçu une révélation, c'est ce qu'il dit dans ce texte ici. Et donc, dans le texte que nous avons lu ce matin, ceci étant posé, c'était là la majeure partie de ce que me paraissait important de dire ce matin, eh bien, du fait que, Paul fonde cet évangile sur la révélation donnée en Jésus-Christ, eh bien, je vous invite à en tirer deux observations. Deux observations de ce qui est dit dans la suite du texte, donc après qu'il ait dit ceci. La première de ces observations, c'est de dire que Paul sait où va cet autre évangile dont il parle. Il sait où ça va. Il sait de quoi c'est fait. Il le sait tellement parce qu'il en vient. En fait, c'est son passé. Il excellait dans cet autre évangile. Il était le meilleur. Il était celui qui allait être le plus ardent défenseur de cet autre évangile. Et il peut témoigner à quel point, en effet, cette autre approche est une perversion. À quel point c'est un demi-tour qui va à l'encontre de l'Évangile. Je le recite, verset 13. « Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Alors, peut-être certains diraient, peut-être vous-même en train de vous dire, Samuel, tu vas un peu loin là, et on pourrait peut-être entendre des voix se lever et dire à Paul, oui, d'accord, mais tu ne crois pas que tu vas un peu loin dans ton argument ici? Nous, on n'est pas en position de persécuter les chrétiens. On n'est pas allé à ce point aussi loin ici. Ne prends peut-être pas ton cas pour une généralité. On pourrait se poser la question de dire, mais est-ce que l'exemple que Paul donne ici n'est pas un peu extrême ici? Eh bien, je vais lui dire oui. Si son cas est extrême, parce que Paul, je crois, était quelqu'un qui allait au bout des choses, il allait vraiment loin dans tout ce qu'il faisait ici, il est le reflet surtout d'une réalité intérieure. Il dira plus tard le genre de fruit que produit cet autre évangile. Dans cette même épître, un petit peu plus loin, il va dire les fruits que produit cet autre évangile. Parce que l'évangile est une œuvre de Dieu, une œuvre du Père, une œuvre du Fils, une œuvre du Saint-Esprit, qui n'œuvre pas en surface, mais qui œuvre en profondeur. Cet autre évangile, voilà ce qu'il produit. Les œuvres de la chair sont évidentes, dit-il. C'est-à-dire l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Comme si la liste n'était pas déjà assez édifiante ici. Et là, il est en train de montrer cet autre évangile, en réalité, ravage tout autant l'Église de Jésus-Christ. Ne pas vivre l'évangile qui transforme l'intérieur du cœur, l'intérieur de notre existence, et qui est un évangile de surface, un évangile de rite, un évangile de pratique, un évangile de faire ceci, faire cela, etc., eh bien, en réalité, cache des choses qui ont besoin d'être travaillées, et cela provoque autant de ravages. Paul connaît bien les forces en jeu de cet autre évangile. Il en vient, et il ne veut en aucun cas y retourner. Il ne veut voir personne y aller. Il sait aussi ce qui le motivait, une soif de reconnaissance des autres, une soif d'une reconnaissance de ses pairs, une soif d'une reconnaissance de son système de pensée, et est prêt à aller loin avec ça. Et il sait que cela n'a rien de comparable avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors, il avertit les Galates. Il avertit les Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Première observation, donc, Dieu sait où mène cet autre évangile. Deuxième observation, c'est qu'en effet, l'évangile amène une véritable transformation. Une transformation de la vie. Et Paul peut être ici celui qui sait que sa vie est transformée et ça se voit. Il y a un effet très révélateur sur les autres, puisque ce que le texte nous dit, c'est que les églises glorifiaient Dieu à son sujet. Quel contraste! Quel contraste! Il cherchait la reconnaissance de sa personne. Sa vie reposait sur ses propres acquis, sur sa science, sur son expérience. Et qu'est-ce que cela donnait comme résultat? C'est que la fiancée du Christ, j'aime appeler l'Église comme telle, la fiancée du Christ en est dans la crainte, en est troublée, en est ravagée. Mais avec l'Évangile, Dieu le cherche, Dieu le met à part, Dieu l'appelle, Dieu se révèle à lui par Jésus-Christ. Paul alors réalise qu'il doit complètement changer de paradigme, qu'il ne doit plus chercher à comprendre ce qui se passe sur sa propre capacité de comprendre, sur sa propre science, sur ses acquis, sur son expérience, ni d'ailleurs sur celle des autres. Et tout ceci, c'est ce qu'il dira ailleurs dans l'Épître aux Philippiens, lorsqu'il dit « Je considère tout cela ». Ma science, ma compréhension, mon histoire, mes acquis, tout ce qui a fait ma personne, qui a fait ma grandeur, je considère tout ceci comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Puis Paul ne consulte ni la chair, ni le sang. Il se laisse transformer par l'Évangile, le vrai, celui de Jésus-Christ. Résultat ? Le résultat précédent, c'est que la fiancée du Christ se trouvait dans la crainte, troublée, ravagée. Le résultat ici, c'est que la fiancée du Christ glorifie Dieu à son sujet. Ne glorifie pas lui, glorifie Dieu à son sujet. Oui, Paul prêche un évangile qui se distingue de raisonnement humain, tenté par deux extrêmes. Le raisonnement humain aura tendance à aller de deux côtés, celui de la religion ou celui de l'irreligion. Cet évangile seul peut véritablement satisfaire un désir de réfléchir. L'évangile dont il parle peut donner toute sa place à la réflexion lorsque les bases sont là, lorsque la révélation est donnée, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que ayant reçu les bases, il y a de la place pour réfléchir, il y a de la place pour poser les principes, mais pas dans l'autre sens. Cet évangile, donc, seul peut mener à une vraie philosophie comme à une belle religion, pas avoir peur du mot non plus, hein, mais cet évangile, donc, ne vient pas des hommes, mais il vient d'une révélation de Jésus-Christ, dont Paul n'est pas juste un porte-parole, et dont Paul est le bénéficiaire. Il le vit, les apôtres en sont témoins, l'Église en est témoin, et elle glorifie Dieu. Ah, peut-être me direz-vous, bon Samuel, d'accord, tu as choisi de prêcher dans l'Épître aux Galates pour ces quelques temps, mais il n'est pas trop concerné par ça. On ne voit pas des influences du judaïsme dans la chapelle de Neuf, par exemple. Donc comment, pourquoi devrions-nous prêter attention à ça? Est-ce que tu es simplement en train de me donner une petite leçon d'histoire, une petite instruction pour comprendre un petit peu ce qui se passait à l'époque? Eh bien, non. Paul, certes, est en train de soulever un problème, de redresser la barre, de poser quelque chose de profond ici dans le problème d'influence du judaïsme dans les églises, mais en fait c'est pas si loin de nos problématiques, parce que la problématique elle est là. Et je termine en lisant un extrait dans le livre de Tim Keller sur une église centrée sur l'évangile, où je crois qu'il résume la situation relativement bien. Tim Keller dit, Tertullien, cite Tertullien, père de l'église ancienne, alors il dit, est connu pour avoir dit, mais en fait dans une note en bas de page, il dit qu'il n'a pas trouvé la source profonde, donc on pourrait dire, Tertullien aurait dit. On va le mettre comme ça, mais apparemment beaucoup de gens le citent comme tel. Voici ce que Tertullien aurait dit, je cite donc Tim Keller qui cite Tertullien, Jésus a été crucifié entre deux voleurs, de même l'évangile est à jamais crucifié entre deux erreurs. Jésus a été crucifié entre deux voleurs, de même l'évangile est à jamais crucifié entre deux erreurs. Quelles sont les deux erreurs auxquelles Tertullien fait référence? Je les appelle souvent religion et irreligion. Les termes théologiques étant légalisme et antinomisme. Une autre façon de décrire ces erreurs pourrait être de parler de moralisme et de relativisme. C'est-à-dire l'aspect donné par une pensée plutôt religieuse des choses ou plutôt par l'idée de dire « Oh, après tout, pourquoi s'occuper de Dieu ?» Ces deux erreurs cherchent constamment à corrompre le message et à voler la puissance de l'Évangile. Le légalisme dit que nous devons mener une vie sainte et juste pour être sauvés, et j'ai envie de dire aussi pour être reconnus, entendus par Dieu. L'antinomisme dit que puisque nous sommes sauvés, nous n'avons pas à vivre une vie sainte et juste. C'est là que se situe le fer de lance de l'Évangile. Établir une distinction claire et nette entre le légalisme, l'antinomisme et l'Évangile est souvent crucial pour que la puissance transformatrice du Saint-Esprit puisse être à l'œuvre. Si le message de notre Évangile ressemble, ne serait-ce que légèrement, à des discours tels que « Vous devez croire et vivre correctement pour être sauvé » ou « Dieu aime et accepte chacun tel qu'il est », nous allons découvrir que notre communication n'accomplit pas l'œuvre prévue, c'est-à-dire l'œuvre de voir changer notre identité et façonner notre cœur. Et Tim Keller termine en disant ceci, c'est pas grave en tout cas, « Si nous nous contentons de prêcher une doctrine et une éthique générale à partir de l'Écriture, nous ne prêchons pas l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle du salut que Dieu a rendu possible pour nous par Jésus-Christ, en vue du rétablissement de notre relation avec lui et de la destruction finale de toutes les conséquences du péché dans le monde. » Alors nous sommes concernés par cela. Nous sommes concernés parce que nous sommes tout autant exposés à la tentation d'un évangile qui se laisse prendre complètement par la pensée religieuse, et de laisser prendre par un évangile qui ne s'occupe plus du tout, qui dit « c'est la grâce et tout va très bien ». Et la prédication de Paul ici est d'interpeller à l'Évangile. Et cet Évangile s'appelle Jésus-Christ. Cet Évangile, il l'a reçu de Jésus-Christ. Cet Évangile a un effet de puissance transformatrice de nos existences. Et Paul interpelle les chrétiennes et les chrétiens qui sont à Galate de ne pas passer à côté de cet Évangile-là. Alors, qu'allons-nous en faire ? Est-il possible que nous soyons sous influence? Réponse, c'est garanti. Nous sommes influencés par une pensée religieuse ou par une pensée de liberté au nom de la grâce. L'enjeu est donc de réaliser, est-ce que l'Évangile œuvre en moi au point que ça rentre au plus profond de mon être? Est-ce qu'en venant au culte ce matin, je viens tout simplement en me disant, en allant au culte, j'irai mieux? Est-ce que je viens en me disant, en venant au culte, je vais plaire à Dieu? Est-ce que je viens en me disant, si je ne vais pas au culte, peut-être j'attraperai le coronavirus? Si je ne viens pas au culte, peut-être que je ne vais pas réussir mon entreprise et ce que je fais ici. Et il n'en faut pas beaucoup pour qu'on pense une chose pareille. Et on ne vient pas au culte pour ça. Maintenant, le fait de venir au culte peut avoir des effets dans ce sens. Mais ce n'est pas là l'enjeu. Est-ce que nous venons au culte pour... pour y rencontrer Dieu et pour être prêt à ce que sa parole pénètre mon âme au plus profond de mon être, au point de me mener à prendre conscience de mon besoin de repentance. Est-ce que je viens au culte pour être nourri au plus profond de mon être, afin que ce qui se passe au plus profond de mon être amorce une véritable transformation? Est-ce que je suis prêt même à venir au culte en me disant, Seigneur, touche-moi, œuvre-moi, change-moi, transforme-moi? C'est par la foi en Jésus-Christ que nous pourrons voir cela. Et combien, avec Paul, j'ai envie de dire, à la chapelle de Nesle que nous représentons ici, ne nous tournons pas vers un autre évangile, mais plaçons-nous à l'écoute de celui qui s'est révélé dans l'Écriture sainte, par les prophètes, par les apôtres, par l'apôtre Paul. Laissons-nous instruire par sa parole, laissons-nous reprendre par sa parole et laissons-nous travailler et changer. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous n'aurions jamais pu la créer nous-mêmes. Nous n'aurions jamais pu décider de choses telles que ça nous travaille au plus profond de notre être. Seigneur, nous sommes là parce que tu nous appelles. Et tu nous appelles par ton évangile. Tu ne nous appelles pas juste à dire, à recevoir un certificat de vie éternelle. Tu nous appelles à ce que cette vie éternelle qui nous est donnée œuvre dans une vie de transformation. Et Seigneur, c'est souvent tellement inconfortable de te voir regarder le plus profond de notre être. Mais c'est là la beauté de l'Évangile, et Seigneur, donne-nous d'avoir un regard renouvelé jour après jour, semaine après semaine. Donne-nous de nous laisser renouveler par ta présence, de nous laisser renouveler par ta parole, renouveler par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de grandir dans la confiance dans ta grâce, de croire, Seigneur, que ta grâce dépasse toute chose, mais ta grâce n'exclut pas d'aller travailler au plus profond de nos êtres pour y apporter de la guérison, pour y apporter une transformation. Seigneur, puissions-nous avoir soif de cet évangile, le chercher de tout notre être et le vivre. Et Seigneur, nous réalisons que nous ne pouvons même pas le décider. Alors nous te prions pour que tu viennes à notre rencontre, pour que tu remplisses nos cœurs, transformes nos pensées, changes nos vies. Oui Seigneur, visite-nous. Nous le prions. Et Seigneur, si jusque-là je réalise que je me suis conforté dans un aspect religieux, pardonne-moi. Si je réalise que je ne prête pas trop attention à ta parole pour qu'elle touche ma vie, pardonne-moi. Et Seigneur, si je vois que tu as commencé une œuvre en moi, oh combien notre prière, ma prière, c'est que tu la poursuives et que ce que tu sèmes germe et transforme mon être. Seigneur, sois béni pour ce que tu fais en nous et nous en remettons entre tes mains. Maintenant, pour que le reste de cette journée, la semaine qui vient, le temps d'épreuve que nous vivons tous par la maladie ou par ce contexte épidémique, ce contexte sanitaire, ce contexte où les relations humaines sont compliquées, où tout est compliqué, que Seigneur, ta présence en nous fasse la différence. Que ta présence entre celles et ceux qui te vivent fasse la différence. Et que ton Église brille dans ce moment difficile. Mais qu'elle brille pas par ses actions, qu'elle brille par la réalité de la présence de l'Évangile en nous. Puisse Seigneur, la réalité de l'Évangile en chacune et chacun de nous ici ce matin, briller dans ce quartier de Paris, dans la ville de Paris, dans la France. Pas parce qu'on cherche à le faire, mais parce que tu le fais en nous. Et nous te prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.